de ce qui s'est passé. Je crois que c'est pour justifier ce qui se passe en ce moment. Comme vous le savez, il y a vraiment une crise sociale,
Oui,
notamment
effectivement.
la crise liée à la desserte en électricité. Et l'EDG et la SONAP sont tous concernés. Alors, est-ce que ce sont des boucs émissaires pour justifier l'incompétence ou pour justifier la malgouvernance? Parce que gouverner, c'est prévoir. Est-ce que c'est pour justifier la malgouvernance du CNRD ou pas? On le dira pour le moment. Ce sont juste des spéculations, en fait.
Effectivement.
Je pense que on a des problèmes de
Merci, aimables auditeurs. Nous sommes dans la seconde partie de cette émission. Dans cette seconde partie, nous allons en Guinée avec notre invitée Diana Diallo. Elle est journaliste à Africa Vision. Elle est également chroniqueuse politique. Avec Diana, nous allons parler de la gestion de la transition politique en Guinée. Nous parlerons du gouvernement, la dissolution du gouvernement, le nouveau gouvernement, le brouillage des médias, et entre autres. Diana Diallo, bonsoir et bienvenue.
Ibrahim, bonsoir à tous ceux qui nous écoutent de la Guinée jusqu'à la diaspora.
Bien, ravi de te revoir, de te recevoir sur Africa Midi, encore à nouveau. Ça faisait très longtemps. J'espère que tout va bien. Comment ça va en Guinée?
Ibrahim Ahmed, déjà, je tiens à rappeler que tu es notamment la première personne à m'avoir donné le micro, hein, dans une radio web. Avant, je le faisais, disons, dans certaines de nos plateformes lorsque j'étais en Chine, mais j'ai fait le journal parler la première fois chez toi, c'était à Asia News. Donc,
C'est vrai, c'est
je tiens à
vrai.
te rappeler cela et je te remercie.
Ah, c'est gentil, c'est vrai, ça. Ça
C'était
rappelle des
cela
choses.
et c'était en 2013.
Effectivement,
C'était
en
en 2013, oui.
2013, là, ça va faire 11 ans quand même. Ok, le temps passe vite.
Ah oui, quand même.
Ah, c'est un plaisir de t'avoir, Diana, dans cette émission. Alors, parlons de la Guinée. La gestion de la Guinée depuis 2 ans, nous avons le CNRD à la tête de la Guinée depuis le coup d'État subi par Alpha Condé. Toi, en tant que journaliste sur le terrain, en peu de mots, cette gestion de la transition, comment est-ce que tu l'aperçois avant qu'on entre un peu en détail sur les sujets?
Disons que c'est vrai que je vis cette transition parce que je suis en Guinée depuis décembre 2021. Et comme tu l'as dit, ce qu'on a subi, hein, eh bien, actuellement, tout le peuple de Guinée est en train de subir ce coup d'État. Parce que, disons-le, comme cela l'est, nous attendions à plus de. À de meilleures conditions de vie. Malheureusement, tel n'est pas trop le cas. Au début, il y avait cette euphorie-là et nous étions très optimistes. Malheureusement, aujourd'hui, nous avons les indicateurs au rouge et il y a une cherté de vie comme pas possible. Et comme vous le remarquez avec les manifestations qui se passent là, c'est lié à l'électricité. La vie est très chère en Guinée. Nous voyons beaucoup de choses qu'ils ont dénoncées. Nous voyons,
D'accord.
ah, je viens de recevoir un message, il y a un autre directeur limogé, j'espère qu'on va en parler encore tout de suite.
Ah,
Ah, ben, c'est grave. Ah,
d'accord,
si, il y a
d'accord.
encore un autre directeur après l'EDG, après l'ANAIM, enfin, après l'EDG, après la SONAP, nous voyons l'OGP là. Je ne sais pas si c'est vrai, mais bon, on va revenir là-dessus tout à
L'OGP?
l'heure. En attendant, oui, je vois Mandia Sidibé, mais est-ce que c'est vrai ou faux? Je
D'accord.
viens juste de recevoir un alerte dans mon téléphone.
D'accord, voilà ma
Ah,
auditeur. Donc, les infos qui passent en direct, on attend d'un mois à l'autre peut-être pour la
je
confirmation.
crois qu'on aura la confirmation tout à l'heure. Apparemment, c'est vraiment, voilà, c'est chaud là en Guinée actuellement.
Non, 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 c'est sûr, il y a une sorte de brouillard, hein. Donc, déjà, il y a du brouillage des médias. Justement, parlant du brouillage des médias, pour les auditeurs qui ne comprennent pas, parce qu'il y a un public, il y a des auditeurs qui ne sont pas forcément guinéens, est-ce que tu peux revenir sur ça un peu de mots, expliquer qu'est-ce qui s'est passé, depuis quand les médias ont été brouillés et comment cela s'est fait-il aujourd'hui?
Eh bien, ça a commencé progressivement, le brouillage des médias. C'était depuis fin décembre, en janvier. Et nous avons constaté déjà d'abord une brouille au niveau de certains médias. C'était d'abord FIM FM, où quand tu captes la radio, tu écoutes des musiques, des chansons notamment qui rendent hommage à l'armée. ou qui sentent juste le Sili national. Et après cela, on a vu encore, on a vu Espace FM et nous avons vu Joma Media. Et ce qui se passe après cela, c'est que on voit la HAC, la Haute Autorité de la Communication, qui fait injonction au bouquet Canal Plus, puisque c'est le bouquet le plus regardé en Guinée et à l'étranger, de retirer ces trois chaînes-là, y compris le radio, et j'oubliais Évasion Télévision et Évasion FM, ont tous été retirés des bouquets Canal Plus. Et 3 à 4 jours après, puisque nous avons un autre bouquet encore suivi qui s'appelle Star Times, géré par les Chinois, où ils ont beaucoup de chaînes de télévision chinoises également, avec des chaînes guinéennes, ils ont eu également injonction de retirer ces chaînes-là, ces mêmes chaînes, de leur bouquet, et ce qui fut fait. Et actuellement, ce qu'on appelle Canal Quartier, ou le bouquet solitaire, qui coûte 20 000 francs par mois, il n'y a que eux qui arrivent à relayer, et disons à minorité, ces chaînes dont je vous ai cité, notamment Joma TV, notamment Espace FM, Espace TV, notamment Joma TV, sur ces bouquets-là. Et malheureusement, il faut l'Internet pour pouvoir les suivre sur leurs applications ou sur leur direct Facebook. Et donc aujourd'hui, il y a beaucoup de ces radios-là qui ont été contraintes de renvoyer ou d'envoyer au chômage technique beaucoup de leurs employés, puisque vous savez que quand ça ne travaille pas, vous n'avez pas d'annonceurs, vous n'avez pas de
Effectivement.
partenaires pour de la publicité, donc les gens ne sont pas payés.
Ah non, c'est une
Ah,
mort
c'est
programmée de ces entreprises
exactement.
médiatiques, hein, parce que ces entreprises vivent de ces,
Exactement.
justement, de ces opérations
Vivent
de
de ça.
marketing.
Exactement. Exactement. Ces entreprises vivent de ça, et quand il n'y a pas d'annonceurs, on ne peut plus payer. On ne peut plus payer les travailleurs. Donc, Espace FM, par exemple, a été obligé d'envoyer au chômage technique plus de 70% de ses travailleurs,
Ah
et
ouais.
ici, on a vu comme à l'extérieur du pays. Et Évasion, beaucoup ont quitté, se retrouvent ailleurs, ou alors au chômage aussi. Et Joma, ça fait longtemps que Joma, ils vivent tant bien que mal. Ils ont leur PDG en prison, Bill Gates, et leurs comptes ont été gelés depuis juste après le coup d'État, et ils arrivaient à joindre le bout tant bien que mal, mais c'est très chaud, c'est devenu très compliqué pour les médias et pour les journalistes en Guinée.
Ah, c'est très compliqué. Est-ce que les autorités guinéennes ont expliqué pourquoi ce brouillage, la raison?
Regard était pointé vers l'ARPT, puisque c'est cette régie de gestion-là de ces radios. Et on a pointé le doigt sur Ousmane Gawa Diallo, qui était le ministre des Télécoms, qui n'a pas fait. Voilà, ils ont refusé de se justifier. Dans le communiqué de la HAC, il a été mentionné que c'était pour des raisons de sécurité nationale. On se demandait, mais pour des raisons de sécurité nationale, si ces émissions à grande écoute ou ces télévisions à grande écoute et ces radios à grande écoute pouvait mener à troubler la vie sociopolitique à Guinée, pourquoi ne pas les convoquer ou alors sanctionner, sélectionner s'il y a des personnes à qui on reprochait de mettre en péril la sécurité nationale, de les amener là et de les sanctionner, comme ils l'ont fait avec Abdoul Latif, comme ils l'ont fait avec beaucoup d'autres personnes. Donc c'est ce qu'on s'est dit, au lieu de punir tout le monde en même temps, il fallait appeler les concernés et leur dire, écoutez, ça va pas, vous vous dégagez et les autres restent. Comme ça, tout le monde n'est pas puni en même temps, mais ce qu'on comprend, c'est que le régime militaire en place n'aime pas beaucoup la contradiction.
D'accord. Est-ce qu'il y a espoir? Est-ce qu'il y a, il y a de l'espoir? Est-ce qu'il y a des échanges? Est-ce qu'il y a des négociations
Oui,
pour
parce qu'en
que...
fait, le nouveau Premier ministre Baouri a été interpellé par rapport à cela, et il a dit qu'il va en parler avec le président de la République. On espère
D'accord.
que tout rentrera dans l'ordre. On a confiance en lui, on espère qu'il va nous aider. Et autre chose, c'est aussi l'Internet. J'oublie, l'Internet a été également
Effectivement,
coupé à Guinée
un certain temps, oui.
pendant très longtemps, sans explication, sans motif. Et l'ancien ministre des Télécoms, Ousmane Gawal aussi, nous avait dit que ce n'était pas un droit et que nous n'avons pas droit à l'Internet à ce moment-là. D'un coup, c'est revenu. On ne sait pas également comment est-ce que ça s'est passé, mais on a revu l'Internet. Et voilà,
D'accord.
malheureusement, c'est comme ça au
D'accord.
paradis.
D'accord, Diana. Alors, tu as parlé tout à l'heure de Bahouri, le nouveau Premier ministre donc, du gouvernement guinéen, après la dissolution du gouvernement Gomon. Est-ce que tu as une idée de qu'est-ce qui serait passé pour qu'il y ait ce limogeage. Parce que, comment, cette dissolution, j'allais dire. Parce qu'il y a eu beaucoup de thèses avancées. Moi, j'ai même reçu des journaux, certains de tes collègues, hein, qui ont expliqué qu'il y avait une sorte d'accrochage entre le Premier ministre et le ministre de la Justice. Donc, finalement, ils sont arrivés à un niveau où le CNRD a pris la décision donc, de dissoudre tout. Est-ce que tu as une idée comment de ce qui s'est passé?
Ont dit, c'est ce qu'on a tous appris. Je crois que c'était le moment de faire cela, mais est-ce que la maladie, est-ce que la plaie a été soignée ou pas? On va en parler tout à l'heure lorsqu'on va parler de nouveau nominé. Mais en attendant, à ce moment-là, je crois qu'il le fallait. Il y avait vraiment un tohu-bohu, il n'y avait pas de respect de la hiérarchie. Apparemment, chacun rencontre à son parrain. C'est vraiment. C'était visible que c'était un gouvernement où il y a beaucoup de lobby, où vraiment la hiérarchie n'était pas de mise. Donc le Premier ministre, on sait qu'il n'avait pas assez d'autorité et disons qu'il y avait des ministres super power, super puissants que lui et qui faisaient ce qu'ils voulaient. Donc c'est dans ce contexte que le ministre de la Justice a interdit au DGA de voyager avec une liste nominative de plusieurs personnalités. Et donc le ministre, selon le Premier ministre, bien sûr, ça devait être une décision collégiale qui devait se faire, notamment tout le gouvernement, pas avec lui seulement le ministre de la Justice. Voilà pourquoi il lui a fait injonction de ne pas continuer ce qu'il faisait. Si le ministre ne voulait pas entendre, eux, ils avaient un forum qu'ils devaient tenir à Dubaï. Il y avait parmi eux certains de leurs cadres ou des cadres de certains départements qui devaient s'y rendre, mais qui n'avaient pas le droit de voyager, puisque le ministre de la Justice a fait injonction à ce qu'ils ne bougent pas. Et donc, c'est dans ce tohu-bohu que, voilà, on apprend que le ministre de la Justice, Alphonse Schellreich, voulait faire arrêter. Le Premier ministre d'abord voulait suspendre le ministre de la Justice et lui, après dans cette nouvelle, il voulait faire, il a appelé au procureur de faire arrêter le Premier ministre et c'est dans ce tohu-bohu que la présidence ou le palais Mohamed V est au courant de cela. Ils nous ont décidé qu'il fallait tout arrêter en même temps.
De
Il
mettre tout le
fallait
monde dehors.
tout et voir, voilà, de mettre tout le monde dehors et de voir comment reprendre les mains. Les choses. Et
D'accord.
ça les a pris 3 semaines.
3 semaines. Justement, après, ils ont choisi Baouri. Pourquoi, selon toi, Baouri, quel atout concrètement?
Bon, selon moi, pourquoi Baouri, je ne peux pas répondre à cette question. Mais bon, quel atout, on va dire, Baouri, c'est quelqu'un, on a été unanime, puisque même entre griffes, l'opposition actuelle l'a quand même entre griffes validé. On reconnaît à l'homme quand même ses qualités intellectuelles. C'est quelqu'un qui a eu un beau parcours d'économiste à aujourd'hui politicien. Je crois qu'il a gravi tous les échelons. Il a quand même vécu avec tout le monde. Et aussi une précision, parce qu'on dit que c'est le doyen de l'opposition, de l'ancienne opposition ou des politiciens guinéens. Beaucoup ne savent pas que Sélou Daling est plus âgé que Baouri. Beaucoup pensent que Baouri est vraiment plus âgé que tout le monde. Non, Sélou Daling est nettement, au moins 5 ans, il est plus âgé que Baouri, ça c'est à préciser. Donc on a quand même espoir, puisque à un moment donné, c'était quelqu'un d'intransigeant. C'est quelqu'un qui a été adulé par une grande partie de la jeunesse de toutes les communautés, notamment par les jeunes de l'Axe. Et donc, à un moment donné, il y a eu une embrouille, il y a eu une embrouille au sein de l'IFDG, il y a eu un divorce. Mais je crois qu'avec le combat contre le troisième mandat d'Alpha Condé, tout est revenu dans l'ordre. Mais bon, je pense qu'on a espoir. Récemment, il a été dit qu'il cherchait un poste depuis longtemps. Je crois qu'il a quand même supporté beaucoup d'idéaux du président de la transition, Mamadi Doumbouya, tant bien que mal. Et puis, je crois qu'il est quand même à une place où tout le monde a espoir. On a quand même espoir. Et les premiers jours démontrent qu'il a quand même une volonté. Mais est-ce qu'il peut faire quelque chose sans l'aval des commandants en place? Est-ce qu'il est vraiment libre? Est-ce qu'il sera libre de faire certains choix avec autonomie? C'est là la grande question. C'est là la grande question. Sinon, même dans l'opposition, y compris dans le communiqué de l'ANAT, on voit quand même un optimisme
Oui.
venant de partout.
Effectivement, comment il inspire cet optimisme-là, globalement, en Guinée, mais justement, comme tu l'as dit, la question, c'est de savoir est-ce que le CNRD va lui laisser la main. D'ailleurs,
Voilà,
parlant de
à
cette.
mon avis, le CNRD ne peut pas juste mettre un premier ministre qui viendra leur tenir tête. Quand même, n'oubliez pas que c'est des militaires. C'est des militaires au pouvoir et
Effectivement.
eux, c'est l'ordre. On te donne des ordres et on vous commande des ordres et vous les exécutez. C'est comme ça, ils le sont.
D'accord. Mais justement, parlant de cette question de laisser la main libre, il y a eu la nomination du nouveau gouvernement. C'est 27 membres, hein, si je ne me trompe pas. Est-ce que tu as senti qu'il y a eu la main de Baoui, il y a eu une consultation, ou est-ce qu'on lui a imposé, enfin, peut-être que est-ce que c'est le mot, est-ce que cette nomination donne des bons signes que Baoui aurait? Oui ou non, la main libre, selon toi.
D'accord, déjà, c'est 29 membres, disons 28 ministres, avec deux secrétariats, notamment aux affaires religieuses et le secrétariat général au gouvernement.
Le gouvernement, effectivement, 29 au total.
Avec 22 ministres, voilà. Donc, quand on voit la nomination, il y a eu près de 50% des ministres qui ont été reconduits. Et le reste, près de 50% également de nouveaux ministres et d'autres qui étaient aussi secrétaires généraux, qui étaient également dans le siège. Donc, ce ne sont pas vraiment de nouvelles personnes qui ont été. Ce n'est pas vraiment du nouveau, en fait. Maintenant, est-ce que Baoui a eu son choix? Moi, je ne crois pas qu'il a vraiment eu un grand choix là-dedans. Parce que quand on a déjà près de 50% des ministres reconduits, on sait déjà que ça ne vient pas de lui. Et le reste aussi, je ne crois pas vraiment. Si vous vous rappelez le 8 mars récemment à Kindia, où il était, il a promis notamment 30% de postes de ministres aux femmes. Malheureusement, je ne crois pas qu'il allait juste le promettre et 3 jours après, on voit une nomination de ministre où on a simplement 6 ministres sur 29, ce qui est totalement alarmant. Quand on sait que nous sommes 52% de la population en Guinée, quand on sait qu'il y a
même,
des
ouais.
femmes capables également d'assumer beaucoup de rôles et qui peuvent faire et qui font beaucoup plus d'ailleurs, parce que vraiment, quand les femmes elles prennent certaines, quand elles sont à certaines postes de décision, on veut vraiment montrer qu'on peut le faire. Donc, on fait tout pour atteindre les objectifs à 100%. Donc, ce qui est à déplorer, on n'a eu que 20% des femmes. Est-ce que Baoui nous l'aurait promis juste sur un coup de tête et qu'il n'a pas pu réaliser? Non, je ne crois pas. Je crois qu'il n'a pas pu le faire. Je crois qu'il n'a pas pu le faire et il n'a d'ailleurs pas pu nommer, je crois, avoir la main libre pour nommer ces personnes à ce gouvernement-là. Donc, tout cela justifie cela.
D'accord. C'est en quelque sorte les premières alertes, hein, les premières alertes, donc peut-être des signes précurseurs de comment la relation, quelle relation va y avoir lié entre Baoui et Mamadi Doumbouya.
Oui. Ah, parce que là, ça ne présage pas quelque chose de très bon. Ça ne présage pas de bonnes choses. Hein. Déjà, quand on lui pose des questions et qu'il dit qu'il va se référer au président, est-ce qu'il vraiment, voilà, est-ce qu'il a une décision à lui-même? Vous savez aussi également qu'il y a beaucoup de lobbies autour du président de la République. Est-ce que les décisions sont prises, voilà, sûrement par ces lobbies-là, hein? Et est-ce que le président y aura des couacs avec ces personnes qui sont très bien placées à côté du président ou pas? Est-ce que le président, le premier ministre a le choix? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il ait les mains libres. Mais connaissant l'homme, je crois qu'il ne se fera pas, qu'il ne va pas se laisser faire. Il ne peut pas se laisser faire. Quand c'est le cas, il faut le dire, il faut faire savoir que ça ne va pas, ou alors il faut juste partir tout doucement, comme l'a fait le premier ministre de la transition numéro 1, Béavogui, tout à fait. Est-ce qu'il va le faire ainsi? En tout cas, je sais que Baoui, on ne peut pas juste marcher sur lui comme ça.
D'accord, voilà, on ne peut pas lui marcher donc, dessus, juste comme ça. Je voudrais parler avec toi à la question justement des droits des femmes. Cette question quand même, c'est le fait qu'il n'y ait pas au moins les 30% de nominations, ça a été un marqueur peut-être que un précurseur, peut-être de ce qu'on pourrait attendre sur la question.
Ça a été, on va dire,
Oui.
la première fausse vérité, pour ne pas dire mensonge, du Premier ministre. Bah oui, il l'a promis. Et nous, à la veille, ou je crois le jour de cette nomination-là, ou juste la veille, il y avait un collectif de femmes à la maison de la presse qui a
D'accord.
participé à cette conférence de presse où l'on a réclamé, où l'on disait que voilà, nous sommes plus de 50%, nous sommes 52%, nous voulons la parité. Pourquoi pas 50% au moins des femmes dans tous les postes de décision, c'est-à-dire de la base au sommet, pas que pour les postes ministériels. Donc c'est ce qu'on réclamait. Et donc, Dieu faisant, ce jour-là, moi, j'ai posé la question à savoir, mais écoutez, récemment, on nous l'avait promis, et même au niveau du CNT, du Conseil national de la transition, on a essayé de respecter le quota des 30% des femmes, pourquoi pas dans le gouvernement. Dans le gouvernement, il y a eu des femmes ministres qui étaient là, mais qui ont été remplacées après par des hommes, donc le quota a été réduit même après cela. Mais est-ce qu'on va pas se battre pour faire respecter ces 30% là au moins? On demandait 30, mais même ces 30% là, après la nomination, on voit qu'on n'a pas les 30%. On n'a eu que 20% de représentativité sur 100, ce qui n'est pas bien. Donc ça nous montre encore une fois que nous sommes une société misogyne. Nous sommes une société très patriarcale, où les femmes n'ont vraiment pas un grand droit. Où le 8 mars, on dénonçait encore ce qu'on dénonce tous les 8 mars, c'est-à-dire que nous n'avons pas encore les mêmes droits que les hommes, même au niveau des entités, même quand on travaille, même au niveau des entreprises, à plus forte raison à la fonction publique ou dans l'administration. Nous n'avons pas les mêmes droits. Les femmes sont encore victimes de beaucoup de tares en Guinée, encore des abus sexuels, de
Oui.
la violence conjugale. Voilà, entre autres, beaucoup de choses, des viols de mineurs, ça se passe tous les jours. Un imam récemment a violé, a enceinté une jeune fille de 16 ans et qui a accusé par la suite Satan. Je crois qu'il n'y a pas, il n'y a pas de, il y
C'était
a des
ça.
lois, mais c'est pas vraiment appliqué parce qu'on continue de constater cet art-là et malheureusement, nous ne sommes pas pris en compte encore en
Non,
Guinée. Ça se passe pas comme
c'est
ça, hein, en Afrique de l'Est, en Afrique australe. Vous voyez ces pays-là, ça bouge. Aujourd'hui, en Tanzanie, il y
Oui.
a une femme qui est présidente là. Quand le président Mohamed nous
Effectivement,
présente, c'est une femme.
effectivement,
Elle ne
effectivement,
s'habille pas.
effectivement,
Au Kenya, il y a beaucoup de représentativité des femmes. Au
effectivement.
Rwanda, au moins 70% des femmes à
Ah
l'Assemblée
ouais,
nationale.
c'est la
Vous
majorité
entendez, ça
éclatante.
bouge pas. Voilà.
Il y a
Donc
du
ça
boulot,
m'étonne.
il y a beaucoup à faire, il y a beaucoup à faire. Malheureusement, quand même, hein, le fait que cette la nomination de ce gouvernement montre quand même que la transition, le CNRD, n'est pas très enthousiaste, peut-être pour ce qui concerne la promotion des femmes dans ce gouvernement. Et ça, c'est quand même, c'est très dommage. J'espère qu'ils vont pouvoir se rattraper, hein, puisque quand même ce point a été dénoncé. Pour
Ah, c'est
finir,
vrai.
comment, Diana, parce qu'on arrive, il nous reste quoi, on arrive au terme même de cet entretien, le temps passe très vite.
Très
Les
rapidement.
profils, les profils de ce gouvernement, est-ce que ça donne espoir par rapport à, justement, c'est vrai, il y a eu des membres du gouvernement qui ont été reconduits, il y a eu des déplacements, donc certains qui ont changé de poste. Pour ceux que tu connais un peu, est-ce que ceci donne espoir de ce qui va advenir, voilà, de cette transition? Surtout qu'on devrait tendre à aller vers une élection quand même, hein? Après tout, c'est une transition.
Ah oui, mais malheureusement déjà, ce n'est pas à l'ordre du jour. Hein. Le Premier ministre l'a d'ailleurs dit récemment sur les ondes de RFI. Mais pour répondre à ta question, pour moi, il y a eu des solutions. Je m'attendais quand même à voir quelque chose de nouveau. Peut-être, même si ce n'était pas à 100%, mais au moins à quelque chose de nouveau. Parce que quand on dissolve quelque chose, un gouvernement comme ça, surtout avec l'ampleur qu'on a entendue, on était cela, on fait ceci avec certaines mesures qui ont suivi, on s'est dit, mais tiens, tiens, il y aura quand même quelque chose de nouveau. Et peut-être qu'il y aura des poursuites, parce que parmi certains membres-là qui ont été limogés, ils ont quand même créé des problèmes au CNRD. Ils ont quand même fait il y a beaucoup qui ont été, bon, ils ne sont pas coupables, mais on parle de malversation financière. Donc, je pense que faire encore revenir ces mêmes personnes-là, c'est de continuer à créer les mêmes problèmes. c'est de continuer à perpétuer le système qui était en place. C'est là le grand souci. Et à mon avis, autre chose, c'est que ramener certaines personnes, il y a au moins peut-être 3-4 personnes qui faisaient presque l'unanimité. On disait que ces personnes-là travaillent. Même si je me dis qu'ils font leur travail, c'est appréciable. Quand on parle de Diaka Sidibé, on la ramène pour la mettre dans un autre secteur, qui sont les PME. Pourquoi ne pas la ramener où elle était? Elle faisait des réformes que tout le monde appréciait, ou alors elle continuait des réformes que tout le monde appréciait. Pourquoi ne pas la ramener là, qu'elle continue le travail qu'elle faisait, puisqu'il faut la ramener? Et il faut ramener Alpha Bakar. Pourquoi le mettre ailleurs? Pourquoi ne pas le ramener là où il était pour continuer son travail? Il n'y a eu que le ministre des Affaires étrangères, Maurice Amda Kouyaté, qu'on a ramené à son poste où il était, tout le reste. Donc ça a été un chamboulement. On ramène de nouvelles personnes, on les met là à la place de ça. On ramène les anciennes personnes et on les chamboule, on les met là, on les met là. Mais je crois que non, ça ne peut pas marcher comme ça. Ça ne peut pas marcher comme ça.
C'est vrai, on s'attendait à ce que ce soit un nouveau cap.
Voilà, un nouveau cap, quoi. On met transition numéro 3 avec un nouveau PM, phase 3 avec un nouveau PM, qu'on aille sur de nouvelles bases. Je vois que même entre griffes encore, l'opposition actuelle, ils ont tous apprécié cela, la venue du nouveau Premier ministre. Il fallait continuer sur ça et peut-être qu'ils allaient s'entendre, aller aujourd'hui vers un dialogue national, inclusif, d'amener les exilés, qu'on mette tout le monde ici, qu'on mette tout le monde sur une table et qu'on fait table rase et qu'on y aille maintenant sur de nouvelles bases. Est-ce qu'ils vont continuer cette année? Est-ce qu'ils sont tous d'accord que les élections n'auront pas lieu et qu'ils sont d'accord sur ça? Ils mettent en place des nouveaux chronogrammes où tout le monde sera d'accord qu'on y aille. S'il faut aller l'année prochaine, s'il faut aller en 2026, il n'y a pas de problème. Mais il faut quand même ce dialogue-là.
Effectivement. Oui, effectivement, il faut le dialogue. J'espère que quand même le CNRD va en tenir compte, d'autant que la nomination de Baour est impolitique, c'est un atout pour le dialogue. Voilà, quelqu'un dont les autres sont pas politiques. Effectivement, effectivement. Mais après, on va voir. Après, on va voir quand même. On va voir que parce que la question, c'est de savoir hein, justement s'ils vont le laisser travailler. S'ils ne le laissent pas travailler, ils pensent que ça va finir comme ça a commencé. Hein, et ça serait très dommage.
Exactement, parce que quand c'est des questions politiques, c'est difficile hein, d'avoir une main libre. Quand c'est sur des questions politiques, quand c'est sur des questions du réajustement du programme de la transition, et surtout quand il y a des velléités de rester au pouvoir,
effectivement.
Ça peut basculer.
Effectivement, et ça va coincer. Dernier point, Diana, il y a apparemment donc des nouvelles des nominations.
Des
décrets qui sont sortis tout à l'heure. Je rappelle, là, quand on parlait, quand on préparait cette émission, je t'écoute, qu'est-ce qui s'est passé ces dernières heures du côté de Conakry?
Alors, du côté Palais Mohamed V, nous avons reçu tout à l'heure des décrets. Puisqu'il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'électricité, nous ne pouvons pas suivre la RTG. Apparemment, ça ne pouvait pas atteindre 20h30 également. Donc, il y a eu le limogeage du directeur général de l'EDG,
L'électricité de Guinée, pour les auditeurs.
L'électricité de Guinée, y compris deux autres cadres hein, de son département. Je suis en train de chercher. Donc, ça fait 3 cadres à ce niveau-là.
Ah oui.
Et aussi au niveau de la SONAP, la Société nationale des pétroles, où le directeur général Amadou Doumbouya a été limogé avec son adjointe Fatmata Camara.
Ah oui, d'accord.
Donc, il y a des intérimaires pour gérer en attendant. Voilà. Et s'il faut parler de ce qui s'est passé, je crois que c'est pour justifier ce qui se passe en ce moment, comme vous le savez. Il y a vraiment une crise sociale,
oui,
notamment la crise liée à la desserte en électricité. Et l'EDG et la SONAP sont tous concernés. Alors, est-ce que ce sont des boucs émissaires pour justifier l'incompétence ou pour justifier la malgouvernance? Parce que gouverner, c'est prévoir. Est-ce que c'est pour justifier la malgouvernance du CNRD ou pas? On le dira pour le moment, c'est juste on spécule en fait.
Effectivement.
Je pense qu'on a des problèmes de tank, on a des problèmes de stockage. Est-ce que la SONAP a les moyens d'acheter des tankas pour stocker des flux, en fait, pour stocker le mazout. Alors, est-ce que l'électricité de Guinée n'a pas d'argent? On sait que les Guinéens ne payent pas l'électricité, mais ils ont quand même beaucoup de subventions. Comment ils arrivent
oui, de
à gérer
l'État.
ça? Ah oui, ils ont beaucoup de subventions.
En tout cas, les problèmes sont profonds. Les problèmes de l'électricité sont profonds et c'est dommage parce que ça va créer la colère populaire.
Ils ont fait une erreur d'avoir rejeté le bateau turc. C'est comme ça que le gouvernement Alpha Condé avait fait pour pallier à la défaite. On manque d'électricité, surtout pendant cette période d'étiage, il n'y a pas d'eau dans les barrages. Donc nous achetons l'électricité avec les Chinois, à Swahili, à Kalita. Mais quand il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau. C'est là où il faut justement prévoir. C'est là qu'il nous fallait ce bateau turc là qui produit de l'énergie thermique. C'est là, par exemple, il faut des mesures. Quand c'est pas trop, il faut des mesures pour stocker tout ça. Parce qu'ils savaient que ça allait arriver quand même. Donc,
bon,
on verra
ce que ça va donner, surtout avec le nouveau gouvernement, le nouveau ministre donc de l'énergie, les nouvelles nominations au niveau de ses services, au niveau de l'ETG, au niveau de la SONAP, et puis on verra. Merci Diana, en tout cas, j'ai été ravi de t'avoir à nouveau dans cette émission sur l'Africa
Midi. Merci Ahmed, c'est un plaisir de revenir à tout moment.
C'est un plaisir. Voilà, mes auditeurs. Merci à toutes et à tous. Donc, c'était la toute dernière partie de cette émission ce soir. C'est une émission d'une heure pendant cette période de Ramadan. Et je rappelle, vous pouvez écouter Africa Midi 24h sur 24. C'est sur le site africamidi.com. Et les rediffusions, les podcasts seront disponibles sur le site ainsi que sur, parfois sur nos pages sociales. Bonsoir chez vous. 3, 2, 1.
Je voudrais vous poser la question autrement. Est-ce que tous les chefs d'État de la sous-région, de la CEDEAO, sont influencés par la France?
Je n'ai pas parlé de tous les États. Je vous ai signé deux présidents, deux présidents, Ouattara et Macky Sall.